Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Comment fait-on pour programmer les assistants vocaux, les logiciels de traduction automatique, pour leur apprendre ce qu'ils savent, pour créer ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle? Pour savoir tout ça, je suis allée récemment au Palais de la Découverte et j'ai écouté un exposé génial sur ce sujet. Je n'ai pas tout retenu, mais j'ai compris que le modèle de base, ce sont les réseaux de neurones. Et surtout, ce qui m'a intéressée, c'est qu'il faut entraîner ces machines à répondre à la bonne question et surtout comprendre leurs erreurs pour les corriger. Avant qu'elle arrive dans votre salon, donc, il a fallu coacher Siri ou Alexa et les autres assistants vocaux. Seulement voilà, pour corriger leurs erreurs notamment, il faut se les procurer, les erreurs. Avoir connaissance des bugs, des commandes non exécutées, des trucs que l'assistant n'a pas compris ou de travers. Ce sont des données vocales qui ne s'inventent pas et ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval. C'est ainsi que les géants du net, Apple, Google et Microsoft, ont reconnu récemment enregistrer des conversations, Skype par exemple, des dialogues ou des commandes vocales à l'insu des utilisateurs. En théorie, ces éléments sont susceptibles, je cite Microsoft, de fournir et d'améliorer des services de recherche, de commandes vocales, de dictées ou de traduction. Mais, la citation est finie, il y a dans le lot des informations personnelles, confidentielles, parfois même des entretiens d'embauche, des couples qui parlent de leur relation. Et évidemment, c'est un premier problème. Ensuite, une fois les données récupérées, ce sont des êtres humains et plus des machines qui s'y collent, qui écoutent et retranscrivent ces conversations pour qu'elles soient ensuite analysées. Ces personnes font partie de la grande armée des ouvriers du net, pour ne pas dire des forçats du web, qui triment pour nous rendre la vie plus facile. Et c'est un deuxième problème. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, on en écoute deux. La première transcrit donc des conversations, parfois confidentielles. Et le second est un déjà classique livreur à vélo, qui a pour patron un algorithme et a fini par se rebeller. Deux récits proposés par Martine Abbott.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Julie, j'ai 25 ans et j'habite pas très loin de Lyon, à la campagne. C'était donc en 2017, je revenais de l'étranger et il fallait que je retrouve à nouveau du travail. J'ai commencé à chercher les offres d'emploi qu'il y avait dans mon département. Toutes les offres qu'il y avait en ligne, je ne cherchais pas quelque chose de spécifique, c'était histoire de me remettre un peu dans le bain en rentrant en France. Et soudainement, j'ai vu une offre pour du télétravail. Je me dis, oh, c'est parfait, je suis pas très motivée pour le moment. En plus, j'aurais pas besoin de prendre la voiture, etc. Vu que j'étais dans la campagne un peu isolée, je me suis dit, ça sera vraiment pratique d'avoir un job comme ça pour l'instant. En plus, il n'y avait pas trop d'exigences, à part le fait de bien parler anglais et bien parler français. Et du coup, il y avait un lien dans l'annonce qui menait sur une espèce de plateforme de recrutement pour du micro-travail. C'était pas marqué micro-travail, maintenant je sais que c'est du micro-travail, mais à l'époque, c'était pas expliqué de cette façon. Et ça parlait de qu'il fallait faire minimum 10 heures par semaine, mais que si on voulait faire plus, il n'y avait pas de souci. Et que c'était payé 10$ de l'heure. J'ai créé un compte sur ce site de recrutement. Une fois sur site, il y avait des offres qui apparaissaient, des jobs de traduction, des jobs de transcription, pour toutes sortes de langues différentes. C'était une plateforme internationale. J'ai postulé une offre pour un job de transcription, ce qui cherchait, il me semble qu'il y avait 150 postes pour des transcripteurs français à ce moment-là. Il y avait une espèce de formation en ligne, plein de dossiers PDF à lire, des pages d'instructions sur comment faire les transcriptions. C'était assez conséquent quand même, parce qu'ils étaient très pointilleux. On avait des tests au fur et à mesure de la formation qui n'étaient pas rémunérés. Et à la fin, il y avait un examen final. Et si on avait un taux de réussite satisfaisant, on était engagé, entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment d'engagement ni quoi que ce soit, mais on était accepté. J'ai été acceptée par le site de recrutement et ensuite ils nous envoyaient sur la plateforme de microtravail. La plateforme de microtravail, c'est là où vraiment les tâches étaient effectuées. Et c'était UHRS qui appartenait à Microsoft. Transcription, en fait, c'est que, par exemple, on entendait un enregistrement audio et ensuite il y avait un texte qui s'affichait. C'était ce que Cortana, l'outil pour lequel on travaillait, avait compris. Cortana, qui est une assistante vocale proposée par Microsoft. Et on devait voir si elle avait compris correctement, si elle avait fait des fautes de grammaire ou d'orthographe dans ce qu'elle avait retranscrit elle-même. Et on devait rajouter des tags qui signalaient des événements sonores qu'il pouvait y avoir, comme une porte qui claque, un bruit de fond, d'autres gens qui parlent derrière, pour comprendre pourquoi est-ce que Cortana avait peut-être mal compris la chose, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de ses erreurs. Par exemple, si vous dites « livre » mais qu'elle a compris « libre », ben, essayez d'arranger ça. À force de nourrir leur base de données et les algorithmes, essayez de faire en sorte qu'elle fasse beaucoup moins d'erreurs, et plus d'erreurs, un jour. Mais je pense qu'on en est très loin. Enfin, à l'époque, elle avait vraiment pas l'air au point, parce que des fois, ça me paraissait assez simple, et elle comprenait pas du tout ce qui avait été dit, ou elle était complètement à côté de la plaque.
Et donc, vous avez entraîné Cortana ?
J'ai entraîné Cortana, ouais, j'ai aidé à l'entraîner. Cet assistant vocal, Cortana, il est utilisé pour toutes sortes de choses. C'est un peu comme Siri qu'on retrouve chez Apple ou Alexa qui est proposé par Amazon ou l'assistant de Google. Les gens s'en servent pour leur recherche Internet. On avait aussi des messages qui étaient dictés. On avait les adresses GPS qui pouvaient être aussi énoncées. On avait toutes sortes de requêtes faites à la machine. Ou parfois, c'était des questions directement à Cortana, comme « Hey Cortana, raconte-moi une blague » ou « Cortana imite la poule, imite le chien ». Puis il y avait aussi des enfants qui essayaient d'avoir une conversation avec Cortana. La société qui m'employait était chinoise. Après, mon manager était basé en Italie. Les références, enfin, le site fait plutôt référence lui, à l'Espagne pour tout ce qui est des mentions légales. Donc on s'y perd vraiment. Les paiements venaient des États-Unis. J'étais payée en dollars par transfert par Western Union, tout simplement. Ça équivalait à un gros SMIC comme on pouvait se faire en France. On avait l'obligation de faire au moins 10 heures par semaine.
Et en moyenne, vous avez gagné combien par mois ?
Le maximum, je pense que c'était 600 euros. Quand il y avait vraiment du travail, je faisais 20 à 25 heures par semaine, mais je ne faisais pas davantage. Au bout d'un moment, il n'y avait plus assez de travail qui arrivait. On était trop nombreux, je ne sais pas, à avoir été recrutés. Donc il n'y avait même plus de quoi faire 10 heures par semaine. D'autres semaines, il n'y avait rien du tout, on ne pouvait même pas faire 2 heures. Les données arrivaient sur la plateforme de micro-travail vers 10h du matin. Donc si on voulait être sûr d'avoir notre dose de tâches à effectuer pour se faire un petit peu d'argent, il fallait arriver pile à l'heure et en faire le plus rapidement possible. Sinon, tous les transcripteurs se jetaient dessus, il n'y avait plus rien à faire. Et après, il fallait qu'on attende le jour prochain pour se refaire l'argent. Ça faisait un peu comme un groupe de vautours qui se jetaient d'un coup sur toutes les transcriptions qui arrivaient sur la plateforme de micro-travail. Donc des fois, c'était impressionnant de voir les chiffres qui descendaient d'un coup. Il y avait 3000 transcriptions il y a 5 minutes, et là, ça disparaît aussi vite. C'était des pistes qui faisaient entre 3 et 15 secondes en général, mais elles pouvaient faire plus. Il me semble que le maximum, c'était 3 minutes. Et ensuite, on passait à la tâche suivante, et donc c'était des pistes audio comme ça qui s'enchaînaient. On devait faire, en fonction des projets, entre 120 et 170 transcriptions à l'heure. Si on allait trop doucement, on était expulsé. Si on allait trop vite, ils nous rappelaient aussi à l'ordre, en disant « attention, vous bâclez peut-être votre travail ». Même 150 en moyenne transcription à l'heure, c'est quand même beaucoup de données à traiter. Mais les gens ont le temps de dire beaucoup de choses, même en 15 secondes. Il y avait des fois où Cortana s'était déclenchée de façon non sollicitée, donc elle enregistrait quelque chose alors qu'on ne l'avait pas activé. C'est là où des pistes pouvaient durer 3 minutes. Et elle est aussi connectée à la Xbox. Donc on avait aussi des conversations. Quand les gens jouent aux jeux vidéo en réseau, c'était vraiment des bouts de conversation de chat en ligne. Ou alors, il y avait un service de traduction instantanée proposé par Microsoft. C'est des gens qui parlent en français, et c'est censé, je pense, écrire le texte après dans la langue ciblée, par exemple l'anglais, pour leur interlocuteur qui ne parle peut-être pas français de l'autre côté. C'était des choses complètement privées, les gens n'avaient clairement pas conscience, je pense, que d'autres personnes allaient les entendre avoir ces conversations. Et dans ces cas-là, il y avait beaucoup en fait, de sexcam, parce que des hommes n'arrivaient pas à se faire comprendre dans la langue ciblée pour dire ce qu'ils voulaient aux femmes qui devaient assouvir leurs désirs. Donc là, on avait des séances sexcam de certains utilisateurs où ils essayaient de faire comprendre à la femme de l'autre côté ce qu'ils voulaient qu'elle fasse. Donc ils parlent en français, la machine était censée traduire, sauf qu'elle traduisait souvent mal, apparemment, vu la frustration des utilisateurs. Des fois, c'était glauque, des fois, c'était rigolo. Mais dans tous les cas, ça me mettait mal à l'aise parce que je me disais, ils n'ont pas conscience que quelqu'un va les entendre. Les gens qu'on entendait, que ce soit sur les conversations ou les requêtes directes à Cortana, on n'avait pas l'identité de la personne. Pour les conversations, les données étaient coupées en petits morceaux, c'était des petites pistes qui étaient distribuées aléatoirement à tous les transcripteurs. On n'avait pas la conversation dans l'ordre normalement, mais ça arrivait qu'on ait des bouts de conversation qui se suivent, donc on pouvait reconstruire un peu ce qui se passait ou la chose. Il y a des voix qui se reconnaissent facilement, donc on arrivait vite à coller les morceaux. On avait les adresses GPS, donc ils donnent leurs adresses, ils donnent l'adresse de leur docteur, de leur avocat. Ils donnent leur nom, prénom, j'ai eu, je crois, 2 fois peut-être des numéros de sécurité sociale. Quand j'avais des gens vraiment tristes et qui étaient là à se confier à Cortana, ça me touchait. Ou des gens qui posaient des questions à Cortana, comme « Hey Cortana, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce qu'on peut être heureux tout seul ?» ou ce genre de choses. Des fois, des gens déprimés qui parlaient à Cortana pour essayer de se remonter le moral. Je me disais « Mon Dieu, c'est triste parce qu'ils sont seuls et en plus ils parlent à leur robot Cortana. » Des fois, je voyais qu'elle avait rien compris. Ils avaient dit une chose super triste, elle avait compris un mot de travers, donc elle devait répondre à côté de la plaque. Et puis, très souvent, moi, j'avais des gens qui traitaient Cortana de sale pute. J'ai transcrit ça, mais tellement de fois. Ou des gens qui disaient à Cortana, « Et Cortana, suce-moi. » Ou souvent, les assistantes vocales, virtuelles, c'est un peu présenté comme des femmes. Comme, voilà, il y a Alexa, il y a Cortana. Et puis, il me semble que Siri et l'assistante Google sont par défaut aussi des voix féminines. Les gens s'en servent, ils disent oui, ça va améliorer mon service avec des robots, des ingénieurs en informatique qui vont faire toutes sortes de choses géniales avec toutes ces données. Mais non, c'est pas le cas. Il y a plein de micro-travailleurs derrière. Des micro-travailleurs qui n'ont pas de vrai contrat de travail et qui n'ont pas de véritable contrat de confidentialité. C'était surtout ça qui me dérangeait parce que moi, on ne m'a rien fait signer de ce côté-là. Moi, je ne me doutais pas que j'allais avoir accès à toutes ces données personnelles et confidentielles. J'ai trouvé ça hyper alarmant, surtout quand on prend en compte le fait qu'il y avait énormément d'enfants sur ce qu'on pouvait entendre. Et surtout qu'à un moment, il y avait un problème de transcripteurs qui donnaient leurs identifiants à d'autres personnes. Qui est derrière l'écran, il n'y a personne pour vérifier. À aucun moment, ils m'ont demandé un papier d'identité non plus pour vérifier si j'étais bien qui je prétendais être. J'ai jamais envoyé de CV. Il n'y avait aucun entretien individuel. Après, ils avaient mes coordonnées bancaires. Mais bon, ils n'ont jamais vérifié qui j'étais. Je suis partie pour plusieurs raisons. Déjà, j'aimais pas contribuer à un système comme Cortana. Et en plus, il y avait le fait que ça devenait plus une source de revenus fiable parce que le nombre de données à traiter variait tellement d'une semaine sur l'autre qu'il n'y avait plus de quoi non plus faire de l'argent suffisamment. Sur la fin, il me semble qu'en décembre, j'étais en dessous de 200 euros. Mais c'est aussi simple que ça. On ne veut plus travailler, on part, c'est tout. J'ai un peu une phobie de l'engagement, donc pouvoir partir quand je voulais, c'était vraiment parfait pour moi. Le problème, c'est qu'une fois qu'on quitte la plateforme, même si on a travaillé pour cette plateforme à temps partiel ou parfois à temps plein quand il y avait beaucoup de travail, on part, on n'a aucune aide sociale, on n'a rien du tout. Parce qu'il aurait fallu, moi, que je sois, je pense, idéalement auto-entrepreneur, indépendante pour déclarer ses revenus. Parce que de leur côté, ils ne m'ont pas déclaré, j'étais pas salariée officiellement. On était très nombreux à travailler au noir sur cette plateforme. Est-ce que Microsoft est passé par un autre sous-traitant ensuite? Est-ce qu'ils ont considéré qu'elle était suffisamment efficace? Ça, j'en doute vraiment. Parce qu'elle aura toujours besoin d'amélioration. Je serais pas étonnée qu'ils soient peut-être allés voir un autre prestataire. Parce que nous, on a été payés 10$ de l'heure, ce qui est pas mal dans le monde du micro-travail. Généralement, les gens sont payés à la tâche, et beaucoup moins que ça, au final, par heure, si on fait la moyenne. Quelques centimes par transcription, par exemple. Donc peut-être qu'ils sont allés voir quelqu'un qui payait moins ses travailleurs.
Je m'appelle Nassim, j'ai 35 ans, 4 enfants. J'étais chauffeur poids lourd il y a un peu plus d'un an, en CDI, tranquillement. Et je voulais regarder si je trouvais pas un autre métier avec plus de flexibilité pour mes enfants, pour la vie de famille, pour avoir la possibilité d'aller les chercher à 4 heures, de faire le sport avec eux le soir en fin d'après-midi. Et j'ai vu sur Internet, on m'en avait déjà parlé, sur le métier des livreurs à vélo de repas, que ça soit pour Uber Eats ou Deliveroo. Bon, moi, j'ai choisi Deliveroo parce qu'apparemment, c'était un peu plus encadré. Il y avait un système de créneaux qui nous garantissait un minimum de commandes par heure. Donc, c'est ça qui me plaisait plus que Uber Eats où vous savez pas combien vous allez gagner. J'ai postulé, je suis rentré chez Deliveroo il y a un an. Donc au départ, je me rends compte qu'il y a un planning avec des obligations de travailler le vendredi, samedi, dimanche. Et je me dis, c'est un peu bizarre. Donc je contacte Deliveroo par mail. Déjà, je suis étonné, il n'y a pas de numéro de téléphone. Tout se fait par mail. Et souvent, quand vous envoyez un mail, c'est un robot qui vous répond. En fait, vous avez une réponse automatique à chaque fois. Et au bout de 4-5 mails, quand vous insistez sur votre problème, à ce moment-là, vous avez un opérateur. Bon, un opérateur qui est souvent, malheureusement, c'est pas de leur faute, mais ils sont souvent incompétents. Je suis au courant qu'ils sont à Madagascar. Donc déjà, c'est des personnes qui maîtrisent pas très bien le français. Mais vous n'avez pas la possibilité, de toute façon, si vous leur posez la question pour les rencontrer, Ils vous disent qu'ils mettent en place chaque semaine des roues café. Ils vous rencontrent au fin fond d'une rue. Roue café, ils appellent ça. Roue R2O café. D'accord. Bon, c'est en anglais. En fait, c'est une sorte de permanence. Mais quand ils vous rencontrent, voilà, dans la rue. Mais le plus gros problème, c'est que quand vous les rencontrez, c'est toujours la même phrase. Nous, on gère rien ici, il faut voir avec Londres. Parce que le siège social de Deliveroo se trouve à Londres. Et apparemment, les pleins pouvoirs sont à Londres. En France, ce ne sont que des intermédiaires. Mais moi, je n'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai signé en France. Les restaurants avec qui je travaille, ils sont en France. Les clients, ils sont en France. Donc, je ne comprends pas pourquoi on me parle de Londres. La première phrase que j'ai eue dans le dossier de candidature de Deliveroo, c'est la flexibilité. Donc je leur demande, est-ce qu'il y a possibilité de ne pas travailler vendredi, samedi, dimanche pour m'occuper justement de ma famille? On me dit oui, il n'y a aucun souci. Mais je me rends compte que j'ai ces trois jours-là, vendredi, samedi, dimanche, l'obligation de travailler de 20h à 22h pour ne pas baisser mes statistiques. Parce que chez Deliveroo, ce système de statistiques vous permet, si vos statistiques sont parfaites, et même pas bonnes, hein, parfaites, d'avoir un minimum d'heures chaque semaine. Pour être parfait, il ne faut aucun retard, interdiction d'être malade, bien sûr. Donc en fait, il faut être prévoyant. Si vous sentez que vous allez être malade dans 10 jours, il faut que vous le sentiez. Si vous le sentez mal, si vous arrivez à la dernière minute, bah malheureusement, vos statistiques vont baisser. Vous n'aurez pas la possibilité de prendre les pics. Et comme les pics sont obligatoires à travailler, et bah comme vous ne les avez pas pris, et bah vos pics ne vont pas monter, la statistique des pics. Donc c'est un engrenage. Donc vous avez des gens, mais c'est vraiment malheureux. Hein. Pour prendre des pics, je connais des personnes qui ont dû aller à Amiens, à Lille, à Rouen. Ils allaient jusqu'à là-bas par leurs propres moyens, parce que là-bas, il y a beaucoup moins de bikers, et ils revenaient pour valider leur pic. En fait, on travaille pour un algorithme. Mais vraiment, et cet algorithme-là, c'est votre patron. Ce patron-là, il vous oblige de travailler certaines heures, et quand ce patron-là, vous lui dites « Mais vraiment, j'ai un certificat médical, je vais me faire opérer en urgence, j'ai quelque chose de grave », ce n'est pas pris en compte. On vous dit que vous êtes indépendant, qu'on ne gère pas tout ça. Mais je suis indépendant, mais vous m'obligez de travailler le vendredi, samedi, dimanche. Et ce cercle vicieux-là, il engendre quoi? Une pression psychologique. Vous avez des bikers, carrément, ils se réveillent en pleine nuit parce qu'il a peur que ses statistiques aient baissé. Ils se réveillent, oh, non, mes statistiques, elles ont baissé. Et en fait, c'est un cauchemar. Deliveroo a un certain son dans sa notification. Il y a des personnes, quand ils entendent cette notification-là, mais leur tête, elle change. Ah mince, j'ai peut-être loupé un créneau. Ah mince, je suis peut-être plus à 11h. Ah mince. Mais c'est horrible, ça lui arrive sur la route avec son scooter ou son vélo. Il va regarder son téléphone parce qu'il a une notification. Malheureusement, il y a une voiture qui est sortie ou quoi que ce soit. Et si vous avez une commande avec vous, bah, on va vous dire quel est l'état de la commande. Parce que quand vous avez un accident et que vous les contactez, avant de vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive, appelez les pompiers, est-ce qu'on peut vous aider? Non, on vous demande l'état de la commande. Et de prendre obligatoirement une photo de la commande, qui est abîmée. Et si vous ne le faites pas, on vous déduit le montant de la course. Parce qu'il y a cet algorithme-là qui vous suit, qui vous surveille, qui vous donne certains ordres, et si vous ne les appliquez pas, vous ne pourrez pas travailler. J'ai travaillé. J'ai passé l'hiver 2018. C'est très dur. Par semaine, je suis arrivé à 62 heures. Sur une journée complète, vous allez faire entre 35 et 40 commandes. Sur un mois, si vous restez sur cette cadence-là, vous allez faire entre 1100 et 1200 commandes. C'est énorme, énorme. Ça va vous faire une commande toutes les 12-13 minutes. C'est-à-dire, vous recevez la commande, vous allez au restaurant partenaire, souvent il y a de l'attente un petit peu, vous prenez la commande, vous allez jusqu'au client et ensuite vous validez. Et vous faites ça, voilà, c'est une routine tous les jours. En gros, vous faisiez du 13-14 euros net. Bon, on se disait que c'était pas mal. Bon, moi, j'arrivais à faire du 3000 euros brut. On va dire 2500 net, mais avec 60 heures de travail par semaine. Quand il pleuvait, ou qu'il neigeait, ou qu'il y avait de fortes intempéries, qui faisaient en dessous de zéro, vous aviez un système de bonus, c'est-à-dire que vous avez un montant, 50 centimes, 1 euro, voire ça peut monter jusqu'à 2 euros, en plus sur chaque commande. Donc ça vous boostait. C'était pas mal au départ, parce que les bonus étaient assez respectés. Ça a duré jusqu'à fin 2018. Et début 2019, les bonus ont commencé à disparaître. J'ai mis une croix sur ma vie familiale. Quand vous êtes un peu moins présent, bah, ça crée des tensions. Depuis que je suis chez Deliveroo, je ne suis jamais parti en vacances. Parce que c'était pas possible. Donc les personnes, ils font quoi? Ils prêtent leur compte à certains amis. Il y a des milliers de migrants, de sans-papiers qui rêvent de travailler. Vous allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ils sont prêts à donner 200 euros, 300 euros par semaine pour aller travailler chez Deliveroo pour qu'on leur loue un compte. J'ai rencontré des restaurants qui se plaignaient parce que les livreurs arrivaient, ne savaient pas parler français et qui montraient leur téléphone pour demander leur numéro de commande. Ils n'arrivaient même pas à prononcer le numéro de commande. Il y en a qui maîtrisent l'anglais, donc ils parlent en anglais. On en est même arrivé où des fois je devais... Moi je parle l'arabe, je devais faire la traduction en arabe parce que le livreur ne savait pas parler. Toute l'année 2019, pas de bonus, donc il pleut, il neige, surtout l'hiver, il a été vraiment très rude. Au janvier-février, on avait atteint des moins 12. On arrive au mois de juin 2019, il y a eu une canicule, juillet était le plus chaud depuis que la météo existe. Au mois de juin, sur Paris, moi j'avais mesuré, au soleil, il faisait 49 degrés. Donc on recevait des messages, faites attention, si vous vous désinscrivez de vos créneaux, vos statistiques ne seront pas impactées. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc, plein de personnes se sont désinscrites parce qu'ils ne supportaient pas et leurs statistiques ont baissé. Je connais peut-être une dizaine de livreurs qui ont arrêté de livrer où pendant la canicule. Ils ont commencé à envoyer des mails, mais j'ai reçu ça, regardez, ils faisaient des captures d'écran, tout le monde. Moi, je leur disais, gardez bien les messages. Et quand vous les contactez, ils me disent, oui, c'est un bug. Mais moi, si vous m'auriez dit, mais j'aurais pas travaillé, madame ou monsieur, enfin, le robot. Donc, la canicule est passée. Nous, bikers, on attend impatiemment la nouvelle mise à jour. On se dit, tout ce qu'on subit, la canicule, tout ça, ils vont nous mettre bien. Le 30 juillet, on reçoit un mail que le lendemain, le 31 juillet, une nouvelle tarification en vigueur va être mise en place. On reçoit tout ça sur toute la France. Du jour au lendemain, il n'y avait plus de tarification minimum. Vous pouvez recevoir une course à 2 euros, 2,50 euros. C'est-à-dire la veille, la même course était à 4,70. Le lendemain, à la même heure, le même restaurant, le même client, la course, elle est à 2,20 euros, 2,30 euros, 2,40 euros. Et en fait, ils se sont alignés sur le modèle Uber Eats. Là, ça a été la révolte. Même des personnes sans papier ne voulaient plus travailler. Là, c'est un choc. C'est un très, très, très gros choc. Bon, moi, je suis sur la zone PLDN. PLDN, c'est Paris, la Défense Nord. Donc, moi, j'ai commencé à organiser un mouvement de protestation où j'essayais... Par rapport à mon expérience, par rapport à mon âge, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes de 25, 27 ans, donc j'essayais de leur parler, je viens de banlieue comme eux, je suis d'origine maghrébine, donc ils sont plus à l'écoute de moi, je parle un peu plus leur langage. Ils m'écoutaient, donc j'ai réussi à rassembler une cinquantaine de livreurs, et j'ai contacté certains autres livreurs sur d'autres zones, qui ont fait de même. En fait, on avait certains leaders à peu près sur chaque zone, et on a décidé de faire des mouvements où on refusait toutes les commandes. Comme Deliveroo nous a fait très mal financièrement, on voulait rendre l'appareil. Il était hors de question qu'on travaille pour une boîte qui, du jour au lendemain, nous a divisé par deux notre chiffre d'affaires. Ça a fait très, très mal à Deliveroo, en sachant que le plus gros mouvement qu'on ait fait, c'était le 1er septembre. Et donc, mon nom a commencé à sortir. Le 3 septembre, je reçois un mail en recommandé. Donc, vous êtes étonné. Déjà, vous avez peur. C'est un spam, vous savez. Je clique. Donc ensuite, vous recevez un message avec un code, vous entrez le code, je reçois le truc. Je vois lettre de résiliation de Deliveroo. Cher Nassim Hamidouche, nous vous notifions par la présente la résiliation de votre contrat de prestation de service. Cette résiliation prend effet avec un préavis de 21 jours. La rupture sera effective à compter du 24 septembre 2019. J'y croyais pas en fait. La seconde d'après, j'envoie un mail, puisque je ne peux pas les appeler, je ne peux pas les rencontrer. Donc j'envoie le mail, je voudrais le motif. Aucune réponse. J'en parle à ma femme, mon épouse, elle me dit « Mais non, mais c'est pas possible, il y a un problème, t'es sûr, il y a par rapport à la grève, je suis sûr que c'est ça, c'est bizarre, il y a une grosse coïncidence. » La veille ou l'avant-veille, vous faites un gros mouvement et ça a duré tout le mois, vous recevez une lettre de résiliation comme ça. Vous faites le rapprochement assez rapidement, c'est cause à effet, quoi. Je leur envoie des mails toute la journée, toutes les minutes, toutes les heures. J'ai encore les mails, là j'en ai un. C'est quand même très grave, c'est un licenciement d'un père de famille, j'ai 4 enfants, je vais me retrouver du jour au lendemain sans aucun revenu. Pourrais-je avoir au minimum une réponse ou un appel téléphonique ? J'envoie ça, aucune réponse. J'ai le journaliste, le Huffington Post, qui me contacte et qui me dit « j'ai une réponse de Deliveroo ». Oh mais, c'est magique ! Moi, la personne concernée, on ne répond même pas à un mail, on ne m'a même pas appelé. Ils ont répondu, en fait, ça doit être le chargé de communication, je pense, qui a répondu au journaliste de Huffington Post et qui lui dit que oui, c'est en raison d'une utilisation frauduleuse ou de vol qu'il a été résilié. Le journaliste, qu'est-ce qu'il dit ?
On vous accuse de voler quoi ?
Des commandes à 2 euros ou des coca ou des burgers.
On vous accuse d'avoir volé les repas que vous
voulez. Voilà, de garder les commandes. Bon, j'ai un gros ventre, hein, avec 35 commandes par jour, ça fait beaucoup quoi. Donc lui, logiquement, qu'est-ce qu'il répond ? Il leur demande, mais vous avez des preuves ?
Il est resté muet. Il a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas notifié dans la lettre de résiliation? Il reste muet. Donc il raccroche, il m'appelle, il me prévient. Je dis, mais quand même, ils ont l'audace de ne pas me dire ça, et en plus de dévoiler ça comme ça à des journalistes. Et je leur dis, donc, j'ai volé, et on me donne 21 jours de préavis. Mais quelle gentillesse des libéraux! Mais malgré tout, le voleur, selon eux, continue encore à livrer. J'ai même réservé pour dans 2 semaines.
Mais c'est votre dernier jour de travail.
Alors c'est mon dernier jour. On se rend compte qu'on travaille pour un robot, pour une application. C'est pas de l'humain. Un humain, il sait que c'est mon dernier jour. Il m'aurait donné juste mes heures d'aujourd'hui.
Il vous aurait fait un petit pot de fin de...
Ouais, voilà. Ou peut-être. Ouais.
Donc demain... Vous...
Après, c'est tellement une application de bugger que peut-être que demain matin, elle va marcher 1 ou 2 minutes. Ça va peut-être bugger. Et quand je vais leur envoyer un mail, ils vont dire « Ah, désolé, non, vous êtes vraiment viré, ça a bugué. » Et ouais, là, je ris, mais franchement, c'est dur. Là, je ris parce que j'ai pris du recul, parce que je me dis, d'un côté, c'est peut-être une bonne chose. Par contre, ma poche, elle dit pas du tout la même chose. En tant qu'indépendant, je n'ai pas de chômage. Donc, en ayant travaillé 55 heures par semaine, en ayant fait plus de 200 heures par mois pendant presque un an, je n'ai pas de chômage. Donc, à partir de demain, je suis à 0 euros par mois. Parce que même pour faire une demande de RSA, il y a un temps de traitement qui dure presque jusqu'à 3 mois. C'est très, très long. J'ai été parfait pendant un an, je vous ai rapporté énormément d'argent. Et malgré tout, j'ai même pas eu un appel. Mais au moins qu'ils me le disent de vive voix, que je puisse m'expliquer avec eux. Et malheureusement, parmi nous, il y a des collègues, c'est des personnes qui sont sans papier, c'est des personnes qui louent des comptes. C'est toutes ces personnes-là que Deliveroo cherche à avoir, parce que ces personnes-là vont pas se révolter. Cette personne-là, même pour 1 euro, mais ils me l'ont dit à vive voix, pour 1 euro, on travaillera. Mais moi, je les comprends, je serais dans leur situation, je ferais pareil. Je viens de la misère, 1 euro, ça a tellement de valeur, bah je le ferai. Ils ont ainsi une possibilité de travailler sans avoir de contrôle au niveau de leur régularisation des papiers. Ils travaillent, ils ont raison. Mais nous, on ne peut pas rivaliser avec ces personnes-là. Je pense que ça les arrange aussi, il y aura moins de rebelles. Moi, j'étais un peu, à leurs yeux, peut-être un peu trop syndiqué, même si je n'ai pas de syndicat, je suis indépendant. Donc je me défends tout seul, juste avec mon expression, quoi. Tout ça, ce combat-là, je le fais aussi pour pas que mes enfants ils subissent tout ça. Je suis très papa poule, moi, donc je suis très très proche de mes enfants, scolarité, donc je suis beaucoup derrière eux, et je veux pas que ce système-là il soit banal, et que l'État il ferme les yeux, et que mes enfants ils vivent ça, hors de question, hors de question.
C'était Mon boss est un algorithme, un reportage de Martine Abad réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Julie, à Nassim, à Antonio Casilli et à Jérôme Pimo. C'est Aurélie Marseille, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Are in the process of being sold.